Habemus Papam.
Bon diable et joufflu. C'est ainsi que Voltaire parlait de Benoît XIV, un pape au profil un peu atypique, comme nous l'explique Philippe Levillain, historien et auteur d'un dictionnaire historique de la papauté.
C'est le premier pape depuis un siècle et demi qui est non aristocratique, qui n'appartient pas au milieu des grandes familles romaines ou italiennes qui produisent des papes. C'est très important et d'ailleurs son élection, sur laquelle on ne sait pas beaucoup de choses, est un peu inattendue. En revanche, il a reçu une très très bonne formation romaine et il connaît très bien la curie de l'époque, en particulier le style qu'il faut imprimer aux congrégations. Donc il va asseoir une autorité naturelle avec un sens aigu de la perception du monde moderne du XVIIIe en essayant d'adapter le discours romain et le discours pontifical aux modifications de la société européenne dans le milieu du XVIIIe siècle. C'est un homme d'une rare intelligence, très travailleur, qui a une expérience assez exceptionnelle à l'époque. Il a joué un rôle important dans l'archidiocèse de Bologne. Vous avez un archidiocèse très riche, où se trouve la plus ancienne université d'Europe. Et là, il organise l'autorité de l'archevêque avec des synodes diocésains, qui sont des formes de consultation de l'ensemble des évêques suffragants, et d'autre part des missions populaires. C'est-à-dire qu'il essaye de faire en sorte que ce qui se fait au niveau de l'organisation soit réverbéré au niveau de la catéchèse, encore une fois. Voilà.
Prospero Lambertini, qui deviendra Benoît XIV, est élu à une période charnière.
Lambertini règne en plein milieu du XVIIIe siècle, pendant 25 ans, entre 1740 et 1765, et il va affronter les grands problèmes du XVIIIe siècle.
De fait, l'Europe tout entière s'agite sous l'influence des Lumières, et Benoît XIV n'y est pas insensible.
La raison pour laquelle ce pape est populaire, il n'est pas populaire dehors, il est aux côtés auprès des savants, c'est que c'est un pape qui a vécu dans le XVIIIe siècle, en sachant parfaitement que la Christianitas romaine devait être défendue par le pape, mais en ne voulant pas ignorer tout ce qui se faisait dans l'ordre du mouvement. C'est un homme ouvert au dialogue. Il a chez lui un souffle rénovateur, hein, certainement très, très fort. Il a constamment été attentif à l'érudition. L'érudition allemande, et la théologie allemande, et d'autre part à l'érudition italienne.
Ainsi, celui qu'on appelle souvent le pape des Lumières entretient des relations avec Voltaire. L'historien Bruno Lagrange nous rappelle dans quelles circonstances.
Voltaire, qui souhaitait ardemment entrer à l'Académie française, voyait opposer le parti religieux en France. Alors il s'est intrigué auprès du nonce apostolique de l'époque en France. Et il a écrit à Pape pour lui demander de lui envoyer des médailles et un portrait. Il lui envoie en même temps une ambassade avec sa pièce de théâtre, Mahomet, avec cette dédicace au chef de la véritable religion, un écrit contre le fondateur d'une religion fausse et barbare. Alors le pape bien entendu lui envoyer des médailles et son portrait. Voltaire écrit « Je viens de recevoir le portrait du plus joufflu Saint-Père que nous ayons eu depuis longtemps. Il a l'air d'un bon diable qui sait à peu près ce que cela vaut. » Benoît XIV remercie Voltaire en ces termes. « Vous ne pouvez pas douter de l'estime singulière que m'inspire un mérite aussi reconnu que le vôtre. »
Toutefois, Benoît XIV a toujours su où placer les limites, comme le rappelle Philippe Levillain.
Il établit ce qu'on peut appeler des barrières, on dirait plutôt la ligne jaune. C'est-à-dire qu'il approche au plus près la ligne jaune, mais il est obligé de mettre une ligne jaune. Et il a essayé de voir ce que dans l'érudition pouvait servir l'Église tout en maintenant la clause de sauvegarde.
Ainsi, derrière la vitrine progressiste, le pape reste très ferme.
Ça n'empêchera pas, par exemple, de mettre un index Esprit des lois en 1752. Pareil pour l'encyclopédie, ce qui a été très très dur pour lui. La condamnation de l'encyclopédie en 1752 a été très très dure, il a hésité très très longtemps, mais et, si vous voulez, il pratique, je dirais, l'affirmation du fait tout en étant ouvert à la possibilité du principe.
Pourquoi est-ce qu'il a condamné l'encyclopédie finalement?
Parce que c'est un système qui affirme le primat de la raison et de la science, surtout ce qui représente la conception chrétienne de la création et de la dépendance du savoir.
Dans de nombreux domaines, il s'entend à louvoyer.
C'est un grand diplomate. Il pratique la politique de la thèse et de l'hypothèse, par exemple, pour les rites chinois qui, vous savez, sont une façon dont les jésuites ont de se comporter en chrétien dans un monde bouddhiste. Il n'accepte pas des pratiques, on peut dire, de connivence, mais en même temps, il explique qu'il y a des accommodements possibles avec la civilisation chinoise pour essayer de faire pénétrer le christianisme. C'est le premier qui a eu une politique d'observation de l'Asie. C'est la mondialisation de l'époque. C'est pareil sur le prêt à intérêt. Il explique que le prêt à intérêt est évidemment condamnable, En même temps, il montre qu'il y a des certaines positions qu'il faut que le prêt d'intérêt peut être utile.
C'est un pape très pragmatique.
Très pragmatique. Il obtient même un rapprochement dans un esprit qu'on ne peut pas dire œcuménique, qui est un esprit de conciliation avec un pays luthérien comme la Prusse, où il obtient qu'il y ait un délégué de la Prusse qui vienne s'installer diplomatiquement à Rome. Il a eu à démêler avec les jésuites et les jansénistes, naturellement, hein, notamment dans la période 1750-1755, si je m'abuse. Et que, je dirais que là, si vous voulez qu'on résume vis-à-vis des jésuites, la problématique, en tout cas la situation est la suivante. Une indépendance missionnaire et, je dirais, corporatiste, du moins congrégationniste, qui demande d'être contrôlée par le Saint-Siège, puisque par définition c'est l'armée du Saint-Siège, et en même temps, une volonté de contrôler cette indépendance, au nom de la clause de sauvegarde de ce que doit être la position du Saint-Siège comme autorité vis-à-vis des jésuites.
Benoît XIV doit ainsi, souvent, ménager des intérêts ou des positions contradictoires.
Le pontificat de Benoît XIV comporte deux aspects. Une volonté d'intervenir politiquement de façon à ce que la situation du Saint-Siège ne soit pas troublée par les Lumières et ce qu'on peut appeler l'intelligence nouvelle du monde. Et en même temps, une volonté de montrer que le message chrétien doit être intériorisé.
Certains voient ainsi des points communs entre Benoît XIV et Benoît XVI. Deux papes qui se veulent à l'écoute du monde qui les entoure, mais qui n'en sont pas moins attentifs à ce que l'Église doit être.
Je crois ce qui résume un peu le pontificat de Benoît XIV, ce qui est intéressant, qui rappelle beaucoup Benoît XVI, c'est ce que j'appelle, moi, la clause de sauvegarde. Dans son choix de Benoît XVI, ce n'est pas référé seulement à Benoît XV, c'est référé aussi à Benoît XIV. Il y a cette volonté de marquer avec fermeté quelle est l'expression même du magistère, et en même temps d'observer et de pouvoir considérer quels sont les éléments positifs du monde moderne.
C'était les historiens Philippe Levillain et Bruno Lagrange qui nous parlaient de Benoît XIV.